franceinter.fr.
À la une de la science, l'incendie Thomas qui dévaste le sud-ouest de la Californie depuis le 4 décembre.
Rien ou presque ne semble arrêter les flammes qui ne cessent de gagner du terrain en Californie. Des vents ont soufflé jusqu'à plus de 130 km/h ces deux derniers jours. Des rafales équivalentes sont attendues ce vendredi. De quoi compliquer le travail des pompiers qui ne sont parvenus à circonscrire que 5% de l'incendie le plus violent dans le comté de Ventura, qui a fait un mort. Ces foyers menacent aussi le centre de Los Angeles et plusieurs centaines de milliers de personnes ont dû être évacuées.
Cette description de la situation date du 8 décembre dans le journal d'Euronews. Une vingtaine de jours plus tard, l'incendie n'est pas éteint. 2 morts, plus d'un millier de maisons et de commerces détruits, plus de 100 000 habitants évacués, et notamment dans le comté de Santa Barbara, au nord de Los Angeles. Les pompiers comptent venir à bout de l'incendie Thomas la semaine prochaine. En attendant, il s'est propagé aux portes d'une des plus grandes villes du monde. On en discute, Agnès, avec notre invité en direct depuis les studios de France Bleu Toulouse.
Frédéric Le Riche, bonjour.
Oui, bonjour.
Vous êtes professeur de géographie à l'université Versailles-Saint-Quentin et spécialiste des États-Unis. Alors pourquoi cet incendie, Thomas, est-il le plus important de l'histoire en Californie? C'est en tout cas comme ça qu'on le présente. Hein.
Oui, effectivement, 2017, c'est une année très particulière, une année horrible pour la Californie. Cet incendie, Thomas, en fait, c'est l'aboutissement d'un processus de plusieurs incendies qui se sont déclaré un peu partout en Californie depuis le mois d'octobre. Au mois d'octobre, c'était surtout le nord, en fait, le centre de la Californie qui était touché autour de San Francisco, et au nord en particulier de San Francisco, sur les comtés de Napa, Sonoma ou Mendocino surtout, qui avaient été touchés avec des dégâts colossaux, dégâts matériels, dégâts humains également. Vous le soulignez tout à l'heure, quelque chose comme 44 décès, mais aussi des dégâts matériels et des dégâts économique important. Là, ce qu'on appelle la Wine Country, cette région du vin, a été extrêmement endommagée. On estime à quelque chose comme 9 milliards de dollars les dégâts. Et puis, du coup, cet incendie, Thomas, qui est en passe d'être maîtrisé, effectivement, plutôt cette fois-ci dans le sud de la Californie, plus désertique, plus aride plutôt que le nord de la Californie. C'est surtout les comtés du nord de Los Angeles qui ont été touchés, Santa Barbara, Ventura County aussi, mais pas seulement aussi San Diego, hein, plus au sud de la Californie, au sud de Los Angeles, a également été touché. Vous le disiez, un nombre de déplacés, un nombre de destructions, de
bâtiments qui a été colossal. C'est pour ça que c'est le pire de l'histoire de la Californie, c'est parce qu'il s'est beaucoup étendu justement.
Oui. Si on regarde historiquement les incendies qui ont eu lieu précédemment, il y en a très régulièrement. Il ne faut pas imaginer que, en focalisant sur l'actualité, on serait sur quelque chose d'absolument exceptionnel et d'inédit. Absolument pas. Ce qui est intéressant, enfin ce qui est dramatique en l'occurrence, c'est la durée des incendies, l'ampleur des incendies, l'ampleur des dégâts, le nombre de décès. En 1933, il y a eu un incendie qui était important, enfin des incendies importants, il y a eu 29 décès. En 91 également, plus près de nous, 25 décès également. Mais malheureusement, 2017 est en train a battu d'ores et déjà le record, effectivement.
Mais ce qui est surprenant aussi, c'est que c'est un incendie dans une ville, en l'occurrence une très grande ville. Comment il peut se propager ainsi?
Oui, alors, il ne faut pas imaginer que ce sont les espaces centraux, véritablement, qui sont touchés, les quartiers les plus urbanisés. En fait, le problème majeur, il vient des formes du modèle résidentiel états-unien en général, et du modèle résidentiel californien en particulier. Pour bien comprendre ce qui se passe, je crois, il faut peut-être essayer de donner 2-3 éléments de contexte. Les images sont choquantes, elles sont extrêmement violentes, mais je crois que c'est aussi le fruit de l'image de la Californie qui oscille entre l'idée d'un paradis, l'idée d'un enfer. C'est un territoire de prospérité. La Californie, c'est la Silicon Valley, c'est Hollywood, c'est un art de vivre également. Mais c'est aussi une terre de danger. Les Californiens vivent dans l'angoisse du Big One, le tremblement de terre. Et finalement, ce sont les incendies qui sont omniprésents. Et du coup, la Californie est comme victime de son succès. Il y a un marché du travail extrêmement dynamique. Silicon Valley ou Hollywood, ça marche très très bien. Une croissance démographique importante. Deux chiffres qui, je crois, il faut avoir, je crois, ces chiffres à l'esprit parce que sinon on peut pas comprendre ce qui se passe exactement. En 1950, il y a 10 millions d'habitants à peu près en Californie. Aujourd'hui, pas tout à fait, mais presque 40 millions d'habitants. C'est-à-dire en 70 ans, la population a été multipliée par 4. C'est quand même difficile à penser, hein, depuis l'Europe et depuis la France en particulier.
Frédéric Leury, justement cette différence entre la France et la Californie, dans l'organisation urbaine, qu'est-ce qu'il y a comme caractéristique de cette organisation urbaine qui fait que ces incendies se propagent et ont l'air si difficiles à éteindre?
C'est la périurbanisation. Fondamentalement, c'est un problème de, comme je le disais tout à l'heure, de modèle résidentiel. Los Angeles, c'est 18 millions d'habitants et les banlieues sont extrêmement étendues. La région de San Francisco, c'est 6 millions d'habitants. San Diego, 3 millions d'habitants. On a affaire à des métropoles absolument immenses. L'étalement urbain est extrêmement important et c'est pour partie lié à la croissance démographique que je soulignais il y a quelques secondes. Les gens veulent habiter dans des pavillons. Donc les deux tiers à peu près du modèle résidentiel, ce sont des pavillons, les gens habitent.
C'est l'étalement urbain, ça veut dire que c'est l'étalement urbain, Frédéric Le Riche, qui est aussi à l'origine de cet incendie qu'on ne semble pas parvenir à éteindre.
Oui, à l'origine, non, mais enfin, qui complique sérieusement la manière de gérer le problème. Et quand je parle d'étalement urbain, il ne faut pas imaginer une banlieue comme on peut la connaître chez nous. C'est aussi un étalement urbain qui va, du coup, miter les espaces sauvages. C'est-à-dire qu'on a un étalement urbain qui va s'étendre en direction d'espaces qui sont des espaces sauvages, des espaces naturels. Et ça, de ce point de vue-là, pour bien comprendre ce qui se passe, en fait, il y a d'une part, une proximité culturelle, une affection des Américains pour la nature sauvage qui est absolument colossale. Il y a un mot qu'on ne peut pas traduire qui est le mot de wilderness, les espaces sauvages, la sauvagerie américaine. Et les Américains sont très friands de ça. Mmh. Et puis l'autre chose, c'est une espèce de laisser-faire. Je vais utiliser ce terme-là, ça sera relativement élégant. Allez, le laisser-faire des pouvoirs publics qui donnent des autorisations de construction dans des endroits totalement reculés, enclavés et impossibles d'accès.
Agnès, on vous pose une dernière question.
Ouais, on a bien vu les images de ces maisons isolées dans les collines qui étaient encerclées par les flammes. Donc on voit bien qu'il y a cette extension des villes dans des zones naturelles très lointaines. Mais donc c'est quoi? C'est la proximité avec la nature qui fait que ça s'embrase plus facilement, ou bien il y a aussi un contexte climatique qui favorise ces incendies?
Oui et oui. C'est-à-dire qu'il y a quand même, on parlait de périurbanisation, il y a à peu près 11 millions de Californiens qui habitent de fait dans des zones à risque parce qu'ils sont loin des espaces centraux, justement dans ces espaces trop proches, sans doute, de la nature. Et puis aussi, ce sont des espaces naturels dans lesquels il peut y avoir un peu de négligence, par exemple, des tessons de bouteilles qui, du coup, vont traîner dans ce type d'espace. Et il y a un lien, effectivement, avec la question du changement climatique. On a traversé une période de sécheresse pendant quelques années en Californie. Et étonnamment, l'hiver dernier, il y a eu des précipitations importantes, ce qui a redonné un coup de fouet, je dirais, à la végétation au printemps. Une repousse végétale importante. Et ça, à la suite d'un été, l'été 2017 a été le plus chaud jamais enregistré en Californie. Et du coup, à l'automne, il y a eu une espèce de carburant très particulier, des feuilles, des brindilles qui se retrouvaient au sol et qui ont alimenté, embrasé plus encore les incendies. Et puis dans un contexte climatique, j'ai envie de dire normal, mais aggravé par le changement climatique, qui est celui de vent d'automne, El Diablo, plutôt dans le nord, ou Santa Ana Wind, plutôt dans le sud de la Californie, oui. Des vents qui vont à 150 km heure et qui vont transporter le brasier un petit peu partout.
Merci. Donc, Frédéric Le Riche, merci beaucoup. On aura l'occasion d'ailleurs d'en parler dans la suite de cette émission du changement climatique avec Sophie Becherel. Merci à vous. Je signale que vous avez publié Les États-Unis, géographie d'une grande puissance aux éditions Armand Collin. Et merci également à France Bleu Toulouse pour avoir assuré la liaison avec vous. Et puis Agnès, on vous retrouve lundi avec Mathieu Vidal.
Tout à fait.
À bientôt. En bref, dans le reste de l'actualité scientifique, à Sumatra vient de se produire la plus grande éruption volcanique de l'année pour cette île indonésienne. Le volcan Sinabung a craché des flammes et surtout des colonnes de cendre brûlantes qui ont atteint plus de 4 km d'altitude cette semaine et encore aujourd'hui. L'éruption de mercredi a été particulièrement dévastatrice. Des milliers d'habitants de Sumatra ont été affectés par les rejets de cendres et de fumée. Il n'y a pas de blessés graves, mais des centaines d'agriculteurs ont vu leur culture détruite par les nuages de gaz chaud et les débris qui dévalent les montagnes. Le Sinabung, entré en éruption en 2013 après au moins 400 ans de sommeil, est l'un des 129 volcans actifs en Indonésie. Le verre de demain, c'est peut-être ça, un matériau qui se répare tout seul. C'est le phénomène qu'a observé un peu par hasard Yu Yonagisawa. Dans son laboratoire, ce chercheur japonais a réussi à reconstituer deux morceaux de verre brisés en les serrant l'un contre l'autre pendant environ 30 secondes à température ambiante. Il s'agissait d'un type de verre de sa fabrication et ce n'est pas encore tout à fait au point car la résistance s'affaiblit quand la température dépasse les 40 degrés. Reste qu'une telle découverte permettrait de doubler voire tripler la durée de vie de nombreux objets en verre, comme les vitres de voiture ou les matériaux de construction. En tout cas, c'est un nouvel exemple de sérendipité, le fait de trouver autre chose que ce que l'on cherchait, puisque ce chercheur expérimentait des formes d'adhésifs capables de fonctionner sur des surfaces mouillées. Et enfin, on vous parlait mercredi du premier satellite de l'Angola, Angosat 1, lancé mardi soir par la Russie. La Russie qui avait perdu son signal peu après sa mise sur orbite. Eh bien, le contact a été rétabli. Ouf ! C'est ce qu'a annoncé ce matin le géant spatial russe Engeria. Une bonne nouvelle pour l'Angola. Ce satellite de télécom est censé améliorer les communications radio et télé et l'accès à l'Internet à l'intérieur du pays, mais aussi chez certains voisins africains.